Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Le pape invite à ne pas craindre de se fatiguer de la prière au cours de l'Angélus récité place Saint-Pierre. François est revenu aussi sur la journée missionnaire mondiale fêtée ce dimanche. Dans ce magazine, nous entendrons un jésuite syrien qui nous parlera de la situation humanitaire très difficile à l'approche de l'hiver dans les grandes villes du pays, à Homs et Alep en particulier. Et puis dans la deuxième partie, nous retrouverons sœur Catherine Aubin et son invité. Ce dimanche, deuxième volet de la rencontre avec Grégoire Aongbonon, un réparateur de pneus devenu bon samaritain des malades mentaux en Afrique. Soyez les bienvenus dans ce magazine. Il faut prier, non pas pour tenter de convaincre Dieu par un flot de paroles, mais pour se battre à ses côtés, car la lutte contre le mal est dure et longue. Elle requiert patience et persévérance. Le pape François l'a rappelé ce dimanche à l'occasion de la prière de l'Angélus devant des dizaines de milliers de personnes rassemblées à midi sur la place Saint-Pierre. Le souverain pontife qui commentait l'évangile du jour, un texte qui invite à prier sans relâche. Dieu, a-t-il dit, connaît mieux nos besoins que nous. Antonino Gallofaro.
La veuve de l'évangile, à force de supplier un juge malhonnête, réussit à se faire accorder la justice. Si elle a réussi à convaincre le juge, pensez-vous que Dieu ne nous écoute pas si on le prie avec insistance, a demandé le pape. François a ainsi invité les fidèles à suivre la veuve de l'évangile et à prier toujours sans avoir crainte de se fatiguer. Il faut, a-t-il dit, en reprenant les paroles du Christ, crier nuit et jour vers Dieu. Dieu qui, poursuit-il, connaît nos besoins mieux que nous. Il est toujours à nos côtés, surtout dans les moments difficiles, quand nous luttons contre le mal qui est en nous et autour de nous. Notre âme, dit-il, c'est la première qui nous fait sentir sa présence, sa miséricorde, son soutien. Si nous perdons la foi, nous cessons de prier et alors nous avançons dans l'obscurité, nous nous égarons sur le chemin de la vie. La prière persévérante est l'expression de la foi en un Dieu qui nous appelle à lutter à ses côtés, tous les jours, à chaque instant, pour vaincre le mal par le bien.
Et en cette journée missionnaire mondiale, le Saint-Père a rappelé que l'Église a pour mission de répandre la flamme de la foi dans le monde. La méthode chrétienne n'est pas le prosélytisme, c'est la flamme partagée qui réchauffe les cœurs. Nous sommes tous proches des missionnaires qui travaillent beaucoup sans faire de bruit et qui donnent la vie, a affirmé le pape François, qui a déclenché un tonnerre d'applaudissements quand il a évoqué la figure de la religieuse italienne Afra Martinelli, tuée par des cambrioleurs il y a quelques jours au Nigeria, un pays où elle œuvrait depuis des années dans une structure éducative. Le souverain pontife qui a relevé que tous ont pleuré sa mort, chrétiens et musulmans, Afra Martinelli qui annonçait l'évangile par sa vie et par la structure qu'elle a mise en place, un centre éducatif, la religieuse italienne qui a mené une bonne bataille. Le pape qui a par ailleurs évoqué la béatification d'un Hongrois, Étienne Sándor, exécuté sous la dictature communiste en 1953. Il a exprimé sa proximité avec la population des Philippines touchée par un fort séisme et a invité également à prier pour ce pays qui a subi de nombreuses catastrophes. Dans la foule, enfin, place Saint-Pierre se trouvaient les participants à une initiative sportive 100 mètres de course et de foi, organisée par le Conseil pontifical de la culture. Le pape les a remerciés car elle nous rappelle que le croyant est un athlète de l'esprit. Un message du nouveau secrétaire d'État, Mgr Pietro Parolin, aux Australiens. Le pays est touché depuis quelques jours par de très graves incendies. Dans ce message adressé à la conférence épiscopale du pays, Mgr Parolin exprime la proximité du pape envers les victimes des incendies et leurs familles, tous ceux qui ont perdu leur logement, ainsi que les équipes de secours qui s'activent contre les flammes. C'est la région de Sydney, dans le sud-est du pays, qui est particulièrement touchée. L'Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix fournira 5,5 millions de dollars en aide humanitaire aux victimes de la crise en Syrie avec le soutien du ministère des Affaires étrangères. Cette somme servira à fournir des services de santé, des produits d'hygiène et des abris aux réfugiés syriens, au Liban et en Jordanie, ainsi qu'aux personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie. Par ailleurs, une collecte d'urgence organisée en collaboration avec les évêques catholiques canadiens a permis de récolter à ce jour près $1,5 million pour la mise en œuvre de divers programmes en Turquie, au Liban, en Jordanie et en Syrie. De passage à Rome, le prêtre syrien Ziad Hilal raconte la guerre civile qu'il traverse aux côtés des habitants de Homs, à 160 km au nord de Damas. Il y dirige, au cœur d'une zone contrôlée par l'armée régulière, un centre social jésuite qui accueille des centaines de familles en quête d'aide. À l'approche de l'hiver, les jésuites en Syrie s'organise malgré les difficultés.
Cette semaine, il y a une bombe qui est tombée juste à quelques kilomètres de notre paroisse. Deux femmes étaient tuées. L'une, c'est une jeune fille qui est de notre paroisse. C'était triste. Pour donner seulement une idée, il y a dizaines de notre paroissiale ou de nos amis qui étaient touchés. Donc la violence augmente de plus en plus dans la région.
Vous organisez une aide humanitaire pour les milliers de gens qui sont touchés par ce conflit. De quoi s'agit quand on parle de l'aide humanitaire en Syrie aujourd'hui?
Aujourd'hui, le GRS, le service des Jésuites pour les réfugiés, continue sa mission en Syrie, à Alep, à Damas et à Homs. Donc, on est en train de préparer l'aide pour l'hiver. L'hiver, cela veut dire toute aide. Non seulement la nourriture, food item, mais aussi des couvertures, aussi payer des logements chauds, si on peut dire, aux gens, surtout trouver de mazout pour les chauffer, acheter du chauffage pour les familles déplacées et les familles réfugiées. Donc il y a plusieurs obligations en ce temps difficile. Maintenant, on peut dire le plus urgent, c'est aussi à Alep. Ça fait quelque temps qu'on n'arrive pas à faire entrer ce qu'il faut de la nourriture et des aides humanitaires dans cette ville qui est à peu près assiégée. Donc, il faut trouver une solution dans le nord du pays.
Il y a quelques prêtres, quelques personnes qui sont touchés très spécialement pour ces conflits.
Oui, toujours il y a la question du père Frans van der Lort, un jésuite néerlandais de Pays-Bas, qui est à Homs, assiégé. Ça fait plus de 16 mois qu'il est là-bas, avec 72 chrétiens et des centaines de familles musulmanes. On n'arrive pas à trouver une solution afin que ces gens sortent de la ville. La dernière lettre du père Frans van der Lort était claire qu'ils n'ont pas ce qu'il faut de nourriture, d'aide humanitaire, de médicaments, surtout l'hiver s'approche. Il y a un mois, ils étaient 75. Il y a 3 personnes qui sont mortes à cause du manque du soin médical. Donc, il faut sonner la cloche et dire à tout le monde qu'il s'agit de la vie de 72 chrétiens et des centaines de familles musulmanes qui ont besoin de trouver un chemin afin de sortir de cette situation assez délicate et assez difficile. Sinon, d'ici à 2, 3, 4 mois, ils vont être tous morts ou malades gravement à cause de ce qui arrive dans ce coin-là dans le monde.
C'était le père jésuite Ziad Hilal, interrogé par nos confrères du programme polonais. Pour la deuxième partie de notre magazine, deuxième volet ce dimanche de notre rencontre exceptionnelle avec Grégoire Aung-Bonon. Ce Béninois d'origine a émigré en Côte d'Ivoire en 1971, où il s'est établi comme réparateur de pneus. Rapidement, des problèmes économiques ont eu raison de sa réussite sociale et il songe au suicide. C'est alors qu'il rencontre un prêtre et sa vie bascule. Grégoire se met à secourir les malades livrés à eux-mêmes dans les hôpitaux. Nous sommes en 1983. Plus tard, alors qu'il visite une prison où sont entassés des détenus, il a une révélation. Quel que soit le mal qu'ils sont faits, ce sont des hommes. Grégoire Aung-Bonon a reçu pour son œuvre le prix Franco Basaglia et le prix de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte contre l'exclusion sociale. Voici la deuxième partie de son entretien avec Sœur Catherine Aubin.
Wake up, send up Africa.
Grégoire Aogbonnon, vous étiez il y a une vingtaine d'années réparateur de pneus et aujourd'hui on peut dire entre guillemets que vous êtes un réparateur de vie.
Depuis que j'ai commencé, je fais toujours confiance à la Providence. Parce que je me dis, dans notre église, il y a eu des hommes, des femmes qui ont eu à faire des choses extraordinaires. Mais ils n'ont pas eu 5 francs au début, mais ils ont fait des choses qui demeurent une histoire. Mais pour moi, Dieu n'est pas une histoire. Et lui-même, il s'est identifié à ses pauvres. Il s'occupera de ses pauvres. En tout cas, avec sa providence, on a réussi à construire le premier centre. On a commencé à recueillir tous les malades qui étaient dans la rue. Au vu des résultats qu'on continue à voir, les prêtres dans les villages, les religieuses vont commencer à nous faire appel. Et c'est là des choses qu'on ne pouvait pas imaginer à notre époque.
Qu'est-ce que vous avez vu?
L'un des premiers images que le Seigneur m'a permis de découvrir, c'est une dame qui est venue nous voir. Monsieur, aidez-moi, mon frère est mentalement malade. La veille de la fête des Rameaux 94, on la prend, on arrive dans son village. La dame va voir ses parents, le papa a commencé à crier. « Pourquoi tu as envoyé des gens ici? Il est déjà pourri, ce n'est pas la peine. » J'ai dit un homme pourri, même s'il est pourri, je veux le voir. Je ne pourrais jamais imaginer dans ma vie un jeune Dieu, 22 ans à peine, mais bloqué au sol, comme Jésus sur la croix, les deux pieds sur un tronc et les deux bras attachés avec fil de fer, mais totalement pourri, avec des asticots partout. Il n'était pas mort. Ce soir-là, on a tout tenté pour le détacher, on n'a pas pu. Tous les fers sont rentrés dans la chair. On ne sait pas par où couper. On a dû faire demi-tour. Et c'est dimanche, jour des rameaux, avec une religieuse infirmière, avec des ferrailleurs qui nous ont donné des cisailles. Nous sommes répartis dans ce village. Difficilement, on a réussi à le détacher. Quand on a fini de le laver, de panser tout son corps, il me regarde et dit, « Monsieur, je ne sais comment dire merci à Dieu, comment vous dire merci. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce sort de mes propres parents. » Et il me pose la question, « Est-ce que je peux être guéri ?» Mais il était tellement pourri qu'il est mort à la suite. Mais moi, pour moi, il est mort dignement comme un homme. Si vous voulez, c'est à partir de là qu'on va commencer à sillonner les villages, commencer à découvrir les différentes méthodes d'enchaînement. Parfois, c'est les deux pieds qu'on prend un tronc, on creuse un trou, deux trous dedans et on met les deux pieds dedans. Et il est bloqué comme ça. Parfois, c'est un bras. Parfois, c'est les deux bras. Parfois, c'est trois membres, deux pieds plus un bras. On lui laisse un bras pour, quand on vient leur jeter les restes de nourriture, ils prennent pour ramasser, pour manger. Je dis toujours, ce n'est pas la faute de la famille. Ils ne savent pas quoi faire. Mais ce qui nous fait mal, qui nous révolte, ce sont les sectes. Dans nos pays d'Afrique, vous les voyez sur tous les carrefours qui promettent des miracles à tout le monde, des bonheurs sans arrêter. Et le traitement consiste à faire quoi? On envoie les malades dans leur centre, ils les enchaînent sous des arbres, sous la pluie, sous le soleil. Et le traitement consiste à faire souffrir le corps pour que le diable sorte. Il faut le priver d'eau et de nourriture. Et ça, on utilise le nom de Jésus.
Et alors, qu'est-ce que vous faites là, Grégoire?
Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons eu à rencontrer les responsables de ces centres. Ça n'a rien donné. Nous sommes allés rencontrer les autorités. Ça n'a rien donné. Nous sommes allés au tribunal pour aller dénoncer. Le procureur a envoyé des policiers. À la fin, on nous dit, oui, mais ce sont des fous. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous comprenez, lorsque vous tombez mentalement malade en Afrique, on peut faire de vous ce qu'on veut. Mais je rends grâce à Dieu parce que beaucoup de ces sectes ont compris. Dès que quelqu'un tombe malade, c'est eux-mêmes qui leur indiquent maintenant le centre aller à Saint-Camille.
Alors maintenant, il y a combien de centres?
Actuellement, en Côte d'Ivoire, nous avons 4 centres d'accueil et 6 centres de travail. Donc 10 centres en tout. Au Bénin, nous avons 3 centres d'accueil et 3 centres de travail. Et le quatrième centre, il y a l'archevêque de Cotonou qui vient de donner 2 terrains dont on est en train de... On espère trouver l'argent d'ici là pour construire le centre d'accueil. Là, l'évêque de Padimé au Togo, lui aussi, il vient de donner un terrain où nous avons un projet. On souhaite que d'ici là, on puisse rapidement faire quelque chose là aussi. Au Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso, l'archevêque de Bobo a donné une grande maison. Ce qui est intéressant encore à vous dire, c'est le nonce qui est mort à Abidjan. Paix à son âme, c'est un saint homme. Ce monsieur, chaque fois quand il apprend que je suis arrivé à Abidjan, Grégoire, pardon, il y a trop de malades mentaux dans les rues d'Abidjan. Fais quelque chose, fais quelque chose. Il aimait trop les malades.
Alors Grégoire, il y a aussi quelque chose maintenant qu'il faut nous dire, parce que ce que vous faites, non seulement vous soignez, Vous allez chercher ces malades mentaux, vous les soignez, mais ce sont eux-mêmes qui prennent en charge les nouveaux malades que vous accueillez. Dites-nous, expliquez-nous, parce qu'on vient maintenant du monde entier vous voir en Afrique pour constater des choses absolument incroyables.
Oui, ma sœur, vraiment des choses incroyables. Mais tout ça, nous le devons au bon Dieu. Parce que moi, je vous ai dit que je ne connais rien. Je n'ai même pas eu la chance de faire des études. Je suis allé seulement jusqu'au CM2. Donc, c'est pour vous dire que je suis nul en tout. Je suis nul. Et je pense que Dieu, je dis toujours, si Dieu a voulu qu'un pauvre type comme moi, qui ne connaît rien, s'il a voulu passer par moi pour lancer une telle activité, c'est pour demander à l'humanité d'ouvrir les yeux. Parce que ces hommes, ces femmes, je dis, ce sont des gens qui sont dépouillés de tout leur bien, de tout leur mental. Ces malades ne sont pas dangereux comme on le pense. Ils ne sont pas violents. Et je dirais même, il est plus facile de vivre avec les malades mentaux que de vivre avec les bien portants. Dans nos centres, ce sont les malades guéris qui s'occupent des autres. Moi, je n'ai pas d'argent. On n'a aucune subvention, ni de l'État du Bénin, ni de l'État de la Côte d'Ivoire.
Comment expliquez-vous, Grégoire, que ces malades, après, puissent s'occuper des autres malades?
Mais ce sont des hommes comme tout le monde. Il suffit de leur faire confiance. Un jour, à Boaké, dans la petite chapelle, un jour, je n'avais pas d'argent pour payer celle qui venait pour faire leur cuisine. Et puis, je les ai regroupés tous. Je les ai dit, écoutez, aujourd'hui, priez beaucoup parce que je n'ai pas d'argent pour payer celle qui vient préparer pour vous. Et il y a un qui s'est levé. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, monsieur, vous nous demandez de prier pour vous. Vous devez savoir que notre silence, c'est une grande prière pour vous. Moi qui vous parle, je ne pouvais jamais imaginer qu'un jour, des hommes allaient encore m'adresser la parole. Des hommes allaient encore s'arrêter devant moi, si ce n'est pas pour me jeter des pierres. Aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à vous, je vois des gens qui viennent même manger avec moi. Non, vous devez savoir que notre silence, c'est une prière pour vous. Et puis une dame s'est levée. Papa, il me dit, papa, mais quand je n'étais pas malade, je faisais la cuisine à la maison. Est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas faire notre cuisine? C'est à partir de là que j'ai compris qui peuvent eux-mêmes s'autogérer.
Écoutez, comment expliquez-vous qu'on vienne de partout vous consulter?
Des malades qui étaient des élèves, je les envoie aux études, ils deviennent des infirmiers, ils viennent, c'est eux-mêmes qui font les consultations. On a 5 présentement à l'école d'infirmiers au Burkina. Il faut leur faire confiance, ce sont des gens qui sont capables de tout. Je dirais que je suis allé dans un hôpital en France où les malades qui ne sont pas à l'hôpital, qui sont dans un centre où ils appellent centre protégé, ils jouent, ils fument cigarettes. Je les ai passé le film. Vous savez, leur réaction, tous unanimes. Ce n'était pas les malades qui sont enchaînés qui les a marqués. Regardez en Afrique, voilà des malades qui travaillent. Nous ici, on nous paye pour ne pas déranger. Et j'ai dit, la meilleure manière de tuer un homme vivant, c'est de le payer à ne rien faire. Non, je pense que rendons grâce et priez pour moi. Priez pour moi. Et je pense que le moment est venu où chacun de nous doit prendre conscience. La chaîne, j'ai envoyé un peu partout dans le monde ce que vivent les malades en Afrique. Mais les autorités, les grands, personne ne bouge. L'OMS vient de sortir un papier. D'ici l'an 2020, la maladie mentale va être la maladie du siècle. Ça va devenir grave, une grande maladie dans le monde. Mais j'ai dit, et je le répète, si l'Église ne commence pas dès maintenant à s'organiser, à faire quelque chose pour ces pauvres, ce n'est pas nos autorités politiques qui vont penser à eux. Et je souhaite, comme l'Église déjà commence à le faire, que tous les chrétiens puissent se mobiliser pour voler à leur secours. Parce que ce même Jésus que nous cherchons dans les églises, ce même Jésus que nous allons rencontrer dans les sacrements, ce même Jésus, c'est lui qu'on délaisse dans nos rues. C'est lui qu'on abandonne sur nos chemins. C'est lui qui nous interpelle aujourd'hui.
Merci Grégoire.
C'était Grégoire Aung-Bonon, un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.